Vous écoutez À l'écoute de sa voix, ou Alève pour ceux qui aiment les raccourcis. Alève, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. De la star de YouTube à votre voisin de palier plus anonyme, Alève donne la parole à ces personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. C'est tellement enrichissant de les écouter et leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore.
La peur est une émotion, la peur est un champ énergétique. Et plus on nourrit la peur, plus on va constituer des petits fragments en fait, de ce qui vont amener à la création de ce qu'on appelle, chez les passeurs d'âme, des entités.
Je suis Christine de Joigny et je découvre chaque jour un peu plus ma spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview d'Audrey Nivet. Je vous recommande fortement d'écouter d'abord la première partie pour bien comprendre, car cette partie est la suite de notre discussion qui était longue et dense. Cet épisode a été scindé en deux parties et il y a vraiment une continuité dans les propos d'Audrey. Alors dans cette deuxième partie, qui est la suite, comme je l'ai dit, du premier épisode, dans lequel nous avons parlé de défunts, d'entités, de canal de lumière, Audrey va nous parler des émotions, qui sont des champs énergétiques, de la façon simple de chasser une entité, et comment aider un enfant à se débarrasser de ses peurs enfantines, celles des monstres dans le placard. Bonne suite d'écoute de cet épisode. Justement, face à ce que tu as découvert, le fait que ça s'appelle passeur ou passeuse d'âme, quelles sont les peurs vis-à-vis de ça que toi tu as su dépasser?
Déjà, je crois que j'ai pas mal parlé de mes peurs jusqu'à présent, effectivement, parce que moi, ça me faisait peur. En fait, les premiers contacts que j'ai eus, clairement, en fait, parce que c'est pas des choses que je perçois avec mes sens physiques, en fait. Donc, quand je dis, par exemple, que je vois les âmes, très clairement, en fait, je les vois parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient. Je les perçois, elles sont là. La meilleure image que j'ai pu arriver à formuler, l'air au-dessus d'une route, par exemple, ou quelque chose qui chauffe, qui est exposé au soleil.
Oui.
L'air se déforme, oui. Le passage de la lumière se déforme en fait à ce moment-là. Il y a comme une espèce de courbure un peu de l'air et on voit un espèce de truc un peu bizarre au-dessus de la surface qui est en train de chauffer en fait. Quand je dis que je les vois quelque part, au moment où je les vois, parce que c'est pas obligé de les voir d'ailleurs, hein, mais donc généralement c'est plutôt avec mon troisième œil on va dire, mon œil intérieur. La nuit, par exemple, si je suis dans ma chambre et qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est ce que je disais, c'est une espèce d'ombre. Mais c'est un peu comme si, voilà, à un endroit, la matière était un peu plus dense, en fait. Un peu comme cette espèce de densité qu'on voit sur une surface qui est exposée au soleil ou qui est en train de chauffer, ou voilà, l'air au-dessus est différent, en fait. Il se tord un petit peu. Donc, voilà, ça, d'arriver à me dire, je vois ça, mais c'est pas grave. L'idée, ça a été peut-être aussi de faire la paix avec ça, en fait, enfin, de faire la paix avec ça qui est un cadeau et pas quelque chose dont je dois avoir peur et dont je dois craindre parce que, visiblement, je suis née avec. C'est assez rigolo parce que quand j'étais petite, en fait, après coup maintenant, hein, je me souviens qu'effectivement, je parlais assez souvent toute seule et en fait, j'avais l'impression que j'étais pas seule. Pourquoi est-ce que j'aurais parlé à haute voix si j'étais pas à l'aise de me retrouver toute seule alors que voilà, non, j'étais bien avec l'environnement qui se passe autour de moi, avec de retrouver un petit peu confiance en ces dons que moi j'avais et que je me suis clairement occultée parce que on m'a introjecté, non mais c'est pas normal, t'es folle, non mais tu parles pas toute seule, voyons, c'est les gens fous qui parlent tout seuls, mais qui a dit que j'étais toute seule d'abord. Et justement, la peur est extrêmement importante quand on est passeur d'âme. Pourquoi ? Parce que la peur, c'est comme toutes nos émotions, c'est l'énergie. Mmh. Les âmes sont sur un plan énergétique, en fait. On ne les voit plus, on ne les perçoit plus dans le monde réel. Par contre, donc, ceux qui sont connectés aux énergies vont les percevoir, en fait. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a une énergie. Elle est pas, en tout cas, elle n'est pas neutre. C'est pas juste de l'air, c'est de l'énergie. Donc tout autour, on perçoit des champs énergétiques. Et donc les émotions sont des champs énergétiques. La peur est une émotion, la peur est un champ énergétique. Et plus on nourrit la peur, plus on va constituer des petits fragments en fait, de ce qui vont amener à la création de ce qu'on appelle, chez les passeurs d'âme, des entités. Je commence tout juste en fait, à découvrir, on va dire, les coulisses du passeur d'âme et tous les sous-entendus qu'il peut y avoir à mes champs de perception. J'apprends à mettre des mots. Mais donc, il y a pas très longtemps, donc, j'ai reçu les enseignements d'une passeuse d'âme pour faire la différence nous-mêmes, ce à quoi on avait affaire en fait. Et il faut faut savoir donc que nos émotions, et notamment la peur, mais ça marche aussi pour la colère, enfin toutes ces émotions qu'on porte, peuvent amener à la création de ce qu'on appelle donc des entités. Les entités, c'est quoi? En fait, c'est une espèce de gros amalgame d'émotions. Et alors, généralement, on a tendance à percevoir celles qui sont négatives. Donc, par exemple, des fois, on va passer dans une pièce et on va sentir... Oh là, il y a un truc qui est pas net ici, il s'est passé quelque chose, parce que donc il y a eu une émotion qui a été très très forte et qui a laissé une trace.
Oui.
Elle peut donner lieu à une entité. Et donc une entité, c'est pas du tout un défunt. Donc là, pareil, je vais reprendre la vision cinématographique des maisons hantées, par exemple, avec y a un cadavre très très laid, etc. Et puis il va jouer en mode poltergeist, il va pousser les choses, il va être agressif, on va sentir son, il va faire du mal aux personnes. Les choses qui font du mal aux personnes, ce ne sont pas nos défunts, ce sont les entités en fait. Donc c'est-à-dire des choses que nous, hommes, individus, nous avons créées par nos émotions et par nos pensées. Avec le contexte actuel qu'on est en train de vivre, moi j'ai eu beaucoup de travail à faire pour me nettoyer, pour nettoyer mon espace de vie, pour ne pas percevoir en fait tous ces champs et toutes ces entités qui ont été créées à partir de la peur que chacun tout d'un coup s'est mis à avoir pour ce virus qu'on ne voit pas, parce que chacun en fait a envoyé tout d'un coup, c'est tous les Français, ou, allez, pas tout à fait, mais tous les Français, les Italiens, à l'échelle planétaire, il y a eu une montée de peur impressionnante, donc du coup il y a plein de trucs sale, entre guillemets, enfin c'est pas négatif ce que je dis, hein, mais en tout cas de champs énergétiques, d'entités pas propres qui ont circulé en fait. Ça fait partie aussi du boulot du passeur d'âme pour que ces énergies négatives qui souhaitent retourner vers les plans de lumière puissent se libérer. Moi j'ai eu un trop gros travail donc à faire pour dépasser donc ma peur de ces énergies-là et de ces entités qui se sont créées. Une notamment un jour, alors ça c'est la petite anecdote, mais du coup sur le moment j'ai absolument pas du tout rigolé. J'étais tranquillement aux toilettes quand il y a donc une entité qui m'a attrapé la cheville.
Voilà.
J'avoue, oui, j'ai pas rigolé parce que vraiment je sentais que ce n'était pas une énergie gentille et qu'elle ne me voulait pas du bien, mais enfin pas du bien. C'est-à-dire qu'en fait, s'il commence à s'accrocher aux gens, c'est là où justement on sent qu'on n'est pas bien tout d'un coup, on ne sait pas, ça ne vient pas de nous. Voilà, il se passe quelque chose, on sent qu'on n'est plus tout à fait pareil. Et ça, c'est une entité. Et donc, je rassure tout le monde. Si jamais ça vous arrive, vous avez le droit de la chasser et dire non, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, je place une limite ici, ce n'est pas moi. Et donc, de repousser, voilà, il n'y a pas besoin d'être passeur d'âme pour garder son intégrité et reconnaître que cette énergie-là ne nous appartient pas et de la virer. Là, il faut savoir être ferme là-dessus. C'est pas être méchant que de prendre soin de soi, surtout pas.
C'est un peu comme dans la vie. On va dire dans la vie en conscience, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous importune dans un lieu public, dans la rue, il y a aussi la façon de dire non, je ne veux pas, et
tout
d'être
à
ferme
fait,
aussi.
Tout à fait. Le parallèle est juste génial parce que c'est ça qui peut-être est à faire évoluer un petit peu dans le champ de perception des gens, c'est que on a l'habitude de tout ce qui est physique. Il y a quelqu'un, comme vous disiez, qui vient nous embêter, on va lui dire non, c'est bon, merci, me vends pas ta sauce, tu m'embêtes, ou voilà. Mm. Il y en a des plus collantes d'autres, on en fait tous l'expérience quotidienne, hein, voilà. C'est valable également sur le plan énergétique. Je répète, ce ne sont pas des défunts, hein, ces choses-là, c'est vraiment des énergies qui, à un moment donné, ont été créées par l'homme. Et donc, ça, on a le droit, voilà, dans son intégrité, de dire non, ce n'est pas mon énergie, je m'en libère. Voilà. Là, il y a un petit exercice pour ceux qui pratiquent qui est très facile à faire, de se dire, ok, cette énergie, je la retourne à la Terre. Et vous faites, si vous voulez, un petit geste, vous l'envoyez, voilà, vous pouvez vous nettoyer, hein, tout simplement, comme on est poussière, enfin, on s'époussette quand on a de la poussière, par exemple, ou des choses sur le pull, voilà, on s'époussette, allez hop, voilà, et je dis adieu à... Enfin, en fait, il n'y a pas besoin d'être... un grand expert en énergétique, etc., pour déjà faire un petit peu le tri là-dedans.
Merci pour l'astuce.
Et verbaliser tout simplement. Déjà, hein, commencer à verbaliser, dire voilà, non, stop. J'ai eu une conversation également très intéressante avec ma sœur il y a quelques temps, donc à qui j'ai appris que j'étais passeuse d'âme. On a eu un long échange là-dessus, et puis qui m'a dit... donc son fils qui est en bas âge, un soir s'est réveillé en pointant du doigt un endroit dans la pièce en disant « Maman, il y a quelque chose, il y a quelqu'un là et il n'est pas gentil et il me fait peur et voilà ». En fait, il faut savoir que les enfants, comme leur champ visuel n'est pas stabilisé complètement, ils sont plus enclins de voir des choses, pas savoir ce que... Enfin, quand je dis voir, encore une fois, rien à voir avec notre vision matérielle. En fait, ils vont percevoir des choses. Et comme ils n'ont pas le filtre, qui est notre filtre à nous, qu'on se met au fur et à mesure en grandissant, voilà, ça fait partie des choses que les enfants peuvent percevoir plus facilement. Je parle des entités, mais ça peut être aussi des défunts, en fait, hein, ou des présences qui peuvent passer dans la rue, etc. Et bah, du coup, voilà, je vais donner la petite astuce. Parce que donc, après, on met ça sur le dos des peurs enfantines. Enfin, le monstre dans le placard ou sous le lit, on en a tous entendu plus ou moins parler quand on était enfant. Plutôt que d'en avoir peur, parce que c'est là, on est bien vraiment sur la question de comment dépasser ses peurs et moi, comment j'ai pu dépasser mes peurs. Parce que donc, j'avais ce bagage-là emmagasiné qu'il a fallu lâcher quand on est enfant, plutôt qu'à son enfant de dire « Mais non, c'est dans ta tête, regarde, maman fait quelque chose. Ah, ça y est, il est parti. » Ou alors « Endors-toi, voir le pire qu'on puisse faire à un enfant. » C'est de lui dire « Bah oui, oui, bien sûr, mon chéri. Et si t'es pas sage, bah, il va rester sous ton lit et il va te manger. » Alors ça, voilà, c'est le meilleur moyen de nourrir des peurs pour des enfants qui peut-être ont des dons d'ailleurs, qui développeront ou qui développeront pas. Après, ça appartient à chacun. Hein. Mais voilà, de se dire non, surtout pas. Il y a ces fameuses entités qui existent, comme il y a les défunts aussi, qu'on peut percevoir, peu importe notre âge. Ou pour un petit garçon qui a 3 ans, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et ben en fait, je lui dis ok, tu tapes 3 fois dans tes mains. Tu voilà, tu les mets jointes. 1, 2, 3 et pousse, pousse, pousse. Voilà, pousse. Tout simplement, il fait acte lui aussi de « je veux rester dans mon intégrité, t'es pas moi, t'as rien à faire là, t'es dans ma chambre, moi je veux dormir tranquille, hop, pouf, vas-y, pousse-toi, vas-y, t'es pas chez toi, t'es chez moi ». La mort, ça fait peur, enfin ça fait peur. On nous dit que ça fait peur depuis qu'on est tout petit, du coup on en a peur alors qu'en fait, voilà, il n'y a pas à en avoir peur, il y a à essayer de comprendre, puisqu'en fait la mort, c'est la vie, c'est un cycle permanent, on le voit dans toutes les choses qui nous entourent. Voilà, la mort et la vie sont intrinsèquement liées, donc quelque part, nous ne pleurons pas nos morts, enfin, pleurons-les, si bien sûr, parce qu'ils nous quittent, ils quittent le plan physique, mais réjouissons-nous, parce que vous inquiétez pas, ils sont toujours dans les plans énergétiques, et ben, on peut se revoir. Voilà. Arrêtons d'en avoir peur, parce que c'est le premier travail à faire pour les passeurs d'âme, c'est de se dire, ok, j'ai pas besoin d'avoir peur de tout ça. On peut remettre des limites, si vraiment il y a besoin d'en mettre, par exemple avec les entités, et on a notre pouvoir pour le faire, chacun individuellement. Il n'y a pas besoin d'être passeur d'âme pour arriver à faire le boulot. Pour les boulots coriaces, bien sûr, le passeur d'âme, ça aide un petit peu. Pour faire le nettoyage, le passeur d'âme sera le bienvenu. Mais sinon, de base, il n'y a pas besoin, y a pas besoin d'avoir officiellement son étiquette d'âme passeur pour, pour y arriver.
On va terminer sur le chapitre des peurs, de la peur. Dans ton évolution, justement, dans ta transformation vers le passeur, la passeuse d'âme, est-ce qu'il y a des peurs qui te freinent encore, voire qui te bloquent ?
Alors, je sais pas. En fait, avec le fait d'avoir découvert que j'étais passeuse d'âme, donc maintenant, ça fait au moins 8 ans, en tout cas, que je vis des expériences plus ou moins bizarres les unes que les autres, en tout cas, qui ne sont pas dans la réalité socialement admise. Depuis 10 ans maintenant que je chemine, je passe de découverte en découverte. Enfin, en fait, quelque part, à chaque découverte, c'est une peur et un dépassement de la peur. C'est comme ça qu'on fonctionne. Plutôt que des peurs, aujourd'hui, ce serait plutôt des limites qui me resteraient. Et les limites qui me resteraient sont celles dont on m'a gentiment bourré le crâne quand j'étais plus jeune. Je ne cite personne parce qu'en fait, c'est tellement vaste. Voilà, c'est le fait de grandir, que ce soit des professeurs, que ce soit des camarades de classe, que ce soit des gens dans la rue, que ce soit des trucs à la télé, que ce soit des amis, de la famille, etc. Voilà, c'est des limites avec lesquelles j'ai appris à grandir en me disant « bah non, c'est pas ça ». En fait, j'ai passé les 26 premières années de ma vie à mettre des impossibilités sur plein de champs de ma vie. Ok, bah c'est pas possible qu'il y ait ça. Ah bah ça, c'est pas possible que ça existe. Ah bah tiens, par exemple, donc j'ai fait du tambour et donc de la danse japonaise. Bah en fait, première fois où j'ai découvert ça, j'ai été tellement enchantée par le truc que je me suis dit ah mais ce serait génial si je pouvais le faire. Et bah juste derrière, bam, je me suis fermé la porte en me disant non, c'est pas possible. Ah non, non, oui, bah non, bah bien sûr, c'est impossible, parce que donc c'était du tambour japonais, j'étais française, c'était joué par des garçons, j'étais une femme. Enfin voilà, en fait, tous les carcans sociaux avec lesquels voilà, je m'étais moi-même fait des portes, bah du coup, voilà, je me les étais réappliquées. Puis donc, du coup, j'ai passé 25 ans à mettre des impossibles, 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 jusqu'à ce que donc il y ait Il m'arrive ce fameux accident de vie où tout d'un coup, en fait, ce qui était impossible, ça faisait partie de ma liste des trucs impossibles, me faire braquer sur mon lieu de travail, mais c'est impossible que ça m'arrive. Et ben, c'est arrivé. Deuxième chose qui était impossible, ma mère a un cancer. Oh, mais c'est impossible, Audrey, mais non, mais tu n'imagines pas. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un dans ta famille qui ait un cancer, en fait, et quelqu'un de proche de toi qui ait un cancer. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était impossible, Dieu merci, en négatif, bah, ça existe aussi en positif. Donc en fait, c'est là où j'ai inversé le... Là où j'ai fait moi-même ma propre bascule, en fait, où je me suis dit, ok, stop, les impossibles négatifs, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'en ai eu deux beaux gros les uns à la suite des autres. C'était ce que j'ai pris comme mes signaux de l'univers qui me demandaient de me réaligner avec moi-même et avec la vie. Voilà, je me suis dit, maintenant, on arrête les trucs impossibles, et j'ai, enfin, impossibles négatifs, et j'ai commencé à regarder ce qui était impossible. Et donc, j'en arrive à ma petite maxime, toute chose impossible a et ou est impossible, comme une possibilité en fait, une
tout
possibilité d'arriver. Donc en l'occurrence, en fait, je considère toutes les choses éventuellement. Quand je vais commencer à dire « Ah, oh, bah ça c'est impossible, bah, bien sûr ça n'existe pas, c'est impossible. » Ah, d'accord, ok. Donc c'est impossible, une possibilité que ça arrive. Donc aujourd'hui, j'ai plus trop l'impression d'avoir peur, j'ai peut-être des limites. Donc, qui sont liés à mon éducation et que je dépasse sans problème. En fait, c'est plus que justement ces blocages, ces peurs ou ces limites qui pourraient arriver. Je sais qu'en fait, justement, c'est exactement là où il faut que j'aille. Il faut que j'enfonce la porte. Ça prend son temps, il faut y aller en douceur avec soi. Il faut, voilà, c'est tout un travail de cheminement que d'apprendre à le faire. Mais c'est exactement là où se situe le truc. C'est là où se situe la réponse et c'est là où se situe la vérité quelque part à la problématique qui m'occupe et qui m'empêche d'avancer ou je sais pas quoi.
Audrey, quel conseil aurais-tu aimé recevoir juste avant de pousser ta propre porte, juste avant voilà, de découvrir que tu étais passeuse d'âme?
Vas-y.
Vas-y?
Ouais, vas-y.
Super.
Vas-y, fonce. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qui te retient? Et en fait, c'est peut-être en se posant la question justement des choses qui me retient ou qui me retenaient en fait à l'époque que voilà, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre les choses qui me retenaient. Et donc, voilà.
Comment serait ta vie aujourd'hui si tu devais renoncer à tout ce que tu viens nous dire, à ta spiritualité grosso modo?
Eh bien, en fait, je crois qu'elle ressemblerait exactement à la vie que j'avais avant. Avant ce gros accident de vie, à savoir une vie qui était un peu morne, un peu terne, pas très excitante, bah, mon plan de vie ressemblait à peu près à « Ok, bah, donc du coup, à 30 ans, il faut que tu aies un mari, des enfants, une jolie maison, une belle voiture. » Donc en fait, plein d'introjections de la société, merci la société pour ça. En fait, la vie, c'est exactement ce qui se passe au-delà de ça, c'est ce qui se passe en dehors de ça.
Quel est le livre parmi les tout premiers que tu as lu quand tu étais enfant et dont tu te souviens encore?
Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, j'ai envie de dévoyer un petit peu la question. Je vais essayer quand même de répondre rapidement. En fait, donc, j'ai parlé tout à l'heure de ce braquage à main armée. Plutôt que de parler de mon enfance avant, j'ai plutôt envie de parler de mon enfance après le braquage. Puis je me suis rendu compte que quelque part, c'est comme si j'étais renée. Enfin, renée. C'est pas très joli mot dit, mais c'est à peu près ça l'idée. Il y a la fameuse maxime qui dit « on a deux vies, que la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une ».
Ouais.
C'est exactement ce qui m'est arrivé, puisque bah, donc, du coup j'ai vu ma mort en face, et donc bah, j'ai mis fin à ma première vie et j'ai commencé la deuxième. Et la deuxième était de savoir que je n'avais qu'une vie. Donc en fait, les livres que j'ai envie
de partager
sont deux livres donc, qui ont soutenu cette nouvelle enfant que j'étais au fur et à mesure qui grandissait avec ce nouveau reformatage en fait. Donc le premier, c'est Je pense trop de Madame Petit-Colin.
Oui, Christelle je crois son prénom.
Christelle, voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher. Christelle Petit-Colin en fait. Qui a été une découverte, mais enfin voilà, un cataclysme pour moi. J'ai découvert que j'avais un mode d'emploi particulier qui est celui d'une personne au potentiel. Dans ce mode d'emploi, indépendamment de tout ce qu'on peut apprendre sur les personnes qui sont au potentiel, en fait, ça a été la redécouverte d'un moi unique, original. Et bah voilà, et donc du coup, je suis partie en découverte de mon haut potentiel et ça m'a amené à me reconnecter à mes sens, à mon hypersensibilité et donc à me réveiller comme passeuse d'âme. Ça, c'était le premier ouvrage. Et le deuxième ouvrage était Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Mmh. Et qui, là, m'a permis de me reconnecter à mon âme et à toute la question des blessures d'âme, en fait. Donc, ce qui se passe dans nos vies antérieures et qui fait qu'aujourd'hui, dans certains aspects de notre vie, on est bloqué par nos peurs. Mais en fait, c'est des peurs qui sont réactivées, qui sont réveillées aujourd'hui, mais qui appartiennent à nos cycles de vie antérieurs.
Quelles sont les trois personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie ?
Waouh, ça c'est la super question. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, je reviens toujours à la même chose. En fait, j'ai renoncé à cantonner ma vie à des choses prévues, prévisibles. Par contre, j'ai fait un espèce de pacte avec l'univers. On est d'accord tous les deux pour qu'il m'envoie les bonnes personnes qui vont m'aider à poursuivre mon évolution et mon chemin de vie. Donc en fait, je les rencontre au fur et à mesure ces personnes que j'aimerais rencontrer. Donc je ne sais pas qui elles sont, je sais juste qu'elles sont là.
Ouais.
Elles arrivent, j'en ai déjà rencontré pas mal. Je crois que notre rencontre, c'était déjà aussi un sacré coup du destin. Donc bah, je continue à remercier l'univers de bien vouloir mettre sur ma route toutes les personnes qui sont bonnes pour moi et qui sont bonnes pour mon développement.
Génial. Si tu avais le pouvoir d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais ?
Ah, 3 dons, c'est beaucoup trop restrictif.
Et 3 principaux.
Et ben, en tout cas, un qu'il a déjà, parce qu'en fait, chaque enfant est né avec tous les dons, il les a déjà tous. On apprend à en développer un petit peu plus d'autres en fonction de qui on est et puis de là à là où on évolue. Mais le don de s'émerveiller, si on pouvait chacun le garder, mais ce serait juste fantastique en fait, de garder ce regard merveilleux, ce regard d'enfant en fait sur la vie. De pas voir tout en noir et blanc, de pas voir tout en triste, de pas voir tout, non, de justement, profitons-en.
C'est le principal don que tu appellerais à ce qu'il se développe.
Tout à fait, et okay. Puis après, bah, ce serait plus un espèce de conseil en fait, mais sois toi quoi. Et toi, tu as tout le potentiel en toi, donc prends le temps de le découvrir, prends le temps de germer, prends le temps de fleurir. Prends le temps de t'épanouir dans la vie, mais les dons, tu les as tous en toi, en fait. Je parlais tout à l'heure des mains magiques. Voilà, moi, je me suis rendu compte que oui, mes mains étaient magiques. Garder ce côté merveilleux et trouver qu'est-ce qu'on a de magique en soi, en fait. C'est quoi notre magie à nous ?
Super. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de ta devise. Est-ce que tu veux bien nous la rappeler maintenant ?
Qu'à toute chose impossible, il y a toujours impossible.
Génial. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
Je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Très, très basiquement, hein, j'ai pensé être fleuriste, j'ai pensé être également, je voulais être pilote de chasse sur des porte-avions à un moment donné, avant de me rendre compte que j'étais nulle en maths.
Et sur une île déserte, qu'est-ce que tu emporterais ?
Ah, j'emporte moi et rien que moi.
Quelle est la rencontre qui t'a marquée ?
Peut-être justement, encore, je vais revenir, mais c'est juste parce que je trouve ça tellement capital. En fait, la rencontre qui m'a marquée, c'est ma rencontre avec moi-même.
Oui.
Parce qu'en fait, on ne sait pas qui on est. Et je crois qu'en fait, c'est la plus belle aventure qui puisse être donnée à une personne. C'est bien d'aller à la rencontre des autres, mais en fait, on a tendance à nous dire, commence par aller avec les autres. Il faut créer du lien social avec les gens autour de nous. Il faut apprendre à les connaître pour pouvoir vivre avec. Mais en fait, on n'apprend même pas déjà à se connaître soi. Justement, c'est un peu le sens aussi de toutes les questions présentes. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu rêvais de faire, etc. Sur une île déserte, qu'est-ce que t'emportes ? Voilà, ou une rencontre qui t'a marqué. Oui, en fait, la rencontre qui m'a marqué, c'est peut-être enfin que moi-même, j'ose aller à la rencontre de moi-même. D'aller rencontrer son amour pour soi, c'est juste, si chacun arrivait à faire ça dans sa vie, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et une fois qu'on s'est rencontré soi, on est capable d'aller avec son cœur, avec sa sincérité, avec son âme profonde, à la rencontre des autres, seulement à ce moment-là.
Quelle est l'appli qui t'est indispensable dans ton téléphone ?
J'ai pas beaucoup d'applis sur mon téléphone, mais il y en a bien une, c'est Facebook. C'est entre autres un moyen de communication avec mes guides. J'ai juste une petite anecdote, parce que vraiment, ça m'a fait mes sourires ce matin. Donc en fait, ils m'envoient des messages à travers les posts et ce que je peux rencontrer sur Facebook comme bonnes remarques, comme conseils, comme vidéos rigolotes. Ce matin, ils m'en ont livré une belle qui était « Arrête de scroller et va lire le livre qu'il y a sur ta table de chevet depuis 3 mois ». Il y a effectivement 3 mois, j'ai acheté 3 livres dont j'ai lu le début et que j'ai arrêté la lecture et ok, j'ai reçu le message quoi.
Ok. C'est la première fois qu'on parle effectivement de Facebook comme moyen de communication avec ses guides, j'adore, c'est super.
Eh ben oui, voilà.
Est-ce qu'il y a une série télévision que tu préfères ?
Je suis une grande fan de dessins animés, enfin ouais. Japonais en l'occurrence, et il y en a une qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle, en version originale, Natsume Yojincho, qui n'est pas diffusée en France, mais qu'en fait on peut trouver sur Internet, Et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui voit, lui, les yokai. Alors, les yokai, c'est quoi? C'est ces créatures fantastiques du folklore japonais qui ont tous des formes bizarres, qui ont des pouvoirs bizarres, etc. Et donc, en fait, il y a très, très peu de gens qui les voient. Donc, ça le perturbe dans son quotidien. Les gens autour de lui pensent qu'il est fou, etc. Et en fait, clairement, je me suis extrêmement attachée au personnage parce qu'il me parlait énormément.
Ouais.
L'ambiance est magnifique. En fait, c'est un dessin animé qui prend son temps à une époque où il n'y a pas tant que ça de dessins animés qui prennent leur temps. C'est plein de poésie, les histoires sont magnifiques, la musique est magnifique. C'est exactement le genre de dessin animé. Donc il y a 7 saisons et je ne sais pas combien d'épisodes, mais voilà, il y a 7 saisons. Et c'est un dessin animé qui prend son temps et qui est idéal à regarder au coin du feu un jour où on a envie de se faire du bien, parce que vraiment, ça fait du bien.
Génial. Quel est l'endroit qui te ressemble le plus ?
Chez moi. Chez moi, parce que, en fait, il y a des jours, c'est très rangé. Et puis, j'y vois clair. Et puis, il y a des jours, c'est le bazar.
Et pour finir, et je sais que tout à l'heure, tu en as quand même un petit peu parlé en disant que c'était difficile de donner des conseils à ceux qui n'osaient pas pousser leur propre porte, hein, de leur placard spirituel. Mais si tu devais donner un conseil, Audrey, lequel serait-il ?
Donc, une question, qu'est-ce qui t'en empêche ? Qu'est-ce qui te limite ? Ça, ce serait la première chose, en fait. Après, bien sûr, de quoi as-tu peur ? Parce que la peur, moi, j'aime beaucoup ce petit mot, la peur elle-même. On a peur de la peur elle-même. Et en fait, quand on dit ça, la peur elle-même, phonétiquement, la langue française, elle est magnifique. La peur elle-même.
Tout à fait.
Voilà, donc en fait, c'est de prendre conscience que là où on a nos peurs, en fait, c'est qu'on s'aime, c'est justement la piste, elle est là. Coucou Audrey, t'as peur de ça ? Regarde, c'est parce que là, regarde, il y a un truc qui t'aime en fait. Donc la peur, elle nous aime intrinsèquement. Et il ne faut pas rester à la porte. Sinon, on peut très bien faire la visualisation d'être devant la porte de son placard et puis il y a un moment donné, soit on va se taper la tête dessus, on va le brûler ou je ne sais pas. Mais il y aura forcément un moment donné où on aura envie d'ouvrir cette porte de placard. La question, c'est de savoir combien de temps est-ce qu'on a envie de rester à regarder la porte de placard ? Est-ce qu'on a envie d'être curieux ou pas ? Enfin voilà, vraiment la question, mais de quoi as-tu peur ? Et puis après, peut-être aussi, parce que je suis maintenant un peu de l'autre côté, juste une promesse en fait, le bonheur et la vraie vie commencent après.
Génial. On va terminer là-dessus. Audrey, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé, pour ta générosité en conseils, en anecdotes, en partage de ton histoire. Et à très bientôt.
Merci.
Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet à l'écoute de sa voix et voixcvoie.fr. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Podcast Addict afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à tous les goodies que j'envoie aux membres de la communauté Aleph, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alecoutedesavoie.fr. Vous pouvez découvrir en avant-première la personnalité du prochain invité sur le compte Instagram du podcast alecoutedesavoie.podcast ou sur Facebook. Vous découvrirez aussi les images des coulisses. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient très bientôt pour une toute nouvelle saison avec des invités extraordinaires. D'ici là, prenez soin de vous.